voix nue. Toute cette semaine, François Siri rencontre François Cheng. Ce soir, la méditation.
François Cheng, bonjour.
Bonjour.
Nous avons retracé votre parcours, votre apprentissage du français à partir de l'année de vos 20 ans, quand vous arrivez à Paris. Vous devenez l'homme d'une double culture. Nous allons aujourd'hui parler de la méditation. Vous écrivez directement en français une poésie qui est en effet un constant recours et retour à la méditation, ce qui est le propre des écrivains taoïstes. Ce n'est pas une poésie intellectuelle, mais une poésie de l'être, de l'expérience intérieure, qui mobilise ensemble le corps et l'esprit, et l'âme, diriez-vous. Est-ce que vous méditez tous les jours ?
Disons souvent. J'ai souvent recours à la méditation. C'est d'abord que j'ai tendance à ne rien prendre pour dû. Tout ce que je croise sur mon chemin, j'éprouve le besoin de le repenser. Pour moi, rien n'est indifférent. Tout est signe qui demande à être déchiffré. Et puis, à ma manière, comme vous le savez, je suis un écorché vif. Les choses qui arrivent pénètrent en moi, y provoquant effarement et interrogation. Enfin, je dois ajouter ceci. À cause de ma longue vie, je suis porteur d'une longue mémoire, chargée de vécus, de drames, de blessures subies, de blessures infligées aux autres, des passions impossibles à effacer, des nostalgies impossibles à combler. Tout cela demande à être démêlé. Et chaque souvenir exige de moi que je le tire du gouffre vers la lumière. Méditer, c'est justement une tentative de plonger dans la profondeur de son être.
Mais comment on fait pour accéder à cette profondeur ?
Je ne médite pas comme le bouddhiste assis en lotus. Cependant, je prête l'oreille à la respiration de mon corps, animé par le souffle. Le souffle est à la fois physique et spirituel. La notion de souffle est profondément enracinée dans l'esprit chinois. C'est ainsi que lorsqu'un Chinois exerce la gymnastique taiji ou la calligraphie, il sait qu'il est en train de réactiver le souffle qui l'anime. Et il ne doute pas un instant que c'est ce même souffle qui est en train de mouvoir l'univers. Selon la pensée taoïste, le souffle de chacun est relié au souffle des autres vivants. Et par là, au grand souffle de l'univers, cela depuis l'origine. Alors méditer, c'est atteindre la profondeur en élargissant sa vision. C'est chaque fois rejoindre l'origine où, à partir du rien, était advenu le tout. C'est chaque fois se mettre dans le sens de la voix. Veoyue, ce que le chinois appelle le Tao. Hein. Et l'on perçoit les choses dans le contexte de l'immense aventure de la vie, régie par le jeu du vide et du plein. À ce moment-là, chaque chose, dans ce contexte-là, chaque chose sera alors pesée à sa juste valeur. C'est la méditation qui permet cela.
François Cheng, à quel moment méditez-vous?
Il y a sûrement des moments privilégiés pour méditer. À l'aube, quand rien du dehors ne vient vous agresser. À la tombée du soir, entre chien et loup, quand la mélancolie vous assaille. Dans la nuit, quand le sommeil s'interrompt. Dans la journée, c'est surtout quand je marche, selon mon rythme. J'ai l'impression alors que je viens vers les choses qui sollicitent mon attention ou que les choses viennent à ma rencontre. Je voudrais préciser que pour méditer, je ne cherche pas forcément l'isolement et le silence. Je peux aussi méditer dans une brasserie ou dans la salle d'attente d'une gare. Quand je suis concentré, le mouvement sans heurts des gens et un brouhaha tempéré ne me gênent pas. Au contraire, je dirais que la présence des autres me met dans un état où je suis en lien avec la vie. Le but de la méditation ne consiste pas à chérir son petit moi de manière égoïste. Quand je dis plonger dans la profondeur de soi, c'est plonger dans la profondeur de l'être, donc en résonance avec les autres êtres et avec la transcendance.
François Cheng, d'après ce que vous venez de dire, je vois pour vous l'importance de la rencontre.
La vie est faite de rencontres. À mesure qu'on avance en âge, on se rend compte que son destin, en réalité, est fait de quelques rencontres décisives. Au cours d'une vie, on fait beaucoup de rencontres qui se révèlent souvent décevante ou même néfaste. Ici, je parle de rencontres bénéfiques, profondes, qui nous révèlent soudain à notre vérité ou à la vérité de la vie tout court. Parce que la vérité de la vie se vérifie toujours à travers l'intersubjectivité. Là, où le souffle du vide médian nous draine vers le haut.
C'est-à-dire que la vérité de la vie, pour vous, vient des autres et de cette rencontre avec les autres. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le charme de cette rencontre?
Le charme d'une vraie rencontre, c'est qu'elle a souvent lieu dans l'inattendu et l'inespéré. Elle est toujours fulgurante, unique, provoquant une émotion intense, illuminante. Tout d'un coup, on se trouve comme ça, face à face, devant un autre. Après quelques échanges, on se reconnaît. Le courant passe, comme on dit. Et là, un rapport d'être à être s'établit pendant que les esprits assurent la communication, les âmes créent déjà un état de communion. Moi, je distingue toujours ces deux degrés, la communication et la communion. Une rencontre peut être suivie d'un lien durable. Mais chaque rencontre en soi est toujours unique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, cette idée de l'unicité de la rencontre, si je l'élargis, je dirais que, sans parler des personnes, même pour un beau tableau qui nous est familier, chaque fois que nous le regardons, il s'agit d'une rencontre unique.
Comme dans vos poèmes où vous parlez aussi d'une rencontre avec une fleur. La fleur au bout du chemin, vous la trouvez belle et vous dites qu'elle justifie soudainement toute votre existence.
Tout à fait, tout à fait. Ainsi, c'est comme ça, hein, de rencontre en rencontre, rencontre avec des humains, rencontre avec l'univers vivant, rencontre avec la transcendance. Il s'agit toujours d'une rencontre. C'est comme ça qu'on avance peu à peu sur la voie de la vraie vie. Cela dit, hein, il faut admettre que les vraies rencontres sont rares. Ceux qui arrivent à saisir la valeur d'une vraie rencontre ne sont pas des gens trop sociables, pleins de relations. Pour moi, ce sont avant tout des solitaires qui sont attentifs et en attente, en quelque sorte. J'ai évoqué précédemment quelques rencontres décisives. Vous vous souvenez, oui.
Au tout début de nos entretiens, oui. Vous nous avez parlé de l'importance qu'avait eue votre rencontre avec Gaston Berger, oui. Et aussi avec les sinologues Paul de Miéville et Alexis Rigaloff.
Oui. Et par la suite, durant de longues années, faisant face au travail, à l'écriture, aux soucis de santé et autres soucis, j'ai mené une vie plutôt solitaire. Plus tard, bien plus tard, après avoir publié des essais, des romans et de la poésie, je suis connu d'un cercle de lecteurs plus élargi, disons le grand public. À partir de là, les rencontres inattendues avec des personnes connues ou inconnues se sont multipliées. Cela peut avoir lieu à tout moment, en tout lieu, dans des transports en commun, dans les jardins, dans les supermarchés, dans les cafés, au coin d'une rue, au détour d'un sentier, comme
et
ça.
Ça vous gêne ou ça vous rend heureux?
Ça me rend toujours heureux.
D'accord.
Oui, toujours heureux. C'est au contraire toujours plein de joie et de reconnaissance. Hein, oui. Les gens viennent vers moi, exprimant leur émotion, leur joie, justement, et se retirent discrètement. Disant cela, je peux paraître présomptueux. Hein. En fait, il n'y entre aucune vanité. Hein. Ce sont des faits. Hein, oui. Au contraire, je suis plein de gratitude et d'émerveillement envers ce peuple de France. Ces rencontres fortuites, gratuites, m'ont permis de découvrir l'âme d'un peuple, un immense réservoir d'intelligence, de sensibilité, de capacité d'échange et de partage.
Et vous avez des exemples précis qui vous viennent en tête en disant ça?
Quelques scènes me reviennent comme ça, hein, en mémoire. Parmi les personnes connues, j'ai fait deux rencontres différentes, mais au cours desquelles une même chose s'est produite. Un jour, je suis allé par hasard dans une réunion publique. Hein, s'y trouvait le grand photographe Marc Riboud. Il est venu vers moi. Et il a sorti de sa poche un petit volume, tout usé, et il me dit, c'est ma Bible. Elle ne me quitte pas. Et c'était mon livre « Vide et plein » en édition de poche. Hein, oui. Et puis une autre fois, toujours par hasard, je suis allé dans une réception. S'y trouvait le grand peintre espagnol Tapies. Il est venu vers moi et il a sorti de sa poche un petit volume tout aussi usé en me disant « Je voyage partout. J'ai toujours ce vide et plein avec moi. Dans le monde des artistes, c'est notre mot de passe. » Bien sûr, ces deux rencontres m'ont marqué. Une autre scène, une veille de Noël, devant une bouche de métro, je me souviens que c'était le métro Alésia, un jeune homme, un banlieusard, m'a reconnu. Il m'a appris qu'il a lu tous mes livres en aisant printemps à la bibliothèque. Et je l'ai entraîné avec moi à la recherche d'une librairie. Et j'ai réussi à acheter un roman de moi pour le lui offrir. Mon plus beau cadeau de Noël, m'a-t-il dit. Pour moi aussi, c'est le plus beau cadeau spontané que j'ai offert de ma vie. Une autre petite scène. Un jour, sur le chemin de retour, j'ai acheté un gâteau, apparemment succulent comme ça.
C'était un gâteau à la crème
Voilà, tout à fait.
Je connais un tout petit peu vos goûts.
La crème pâtissière, oui. Hein, oui, oui. Un genre de religieuse, vous voyez.
D'accord.
Et à l'approche de chez moi, ne résistant plus, hein, j'ai décidé de le manger en marchant comme ça, tout en me disant que, pourvu que quelqu'un ne surprenne pas ce digne académicien qui mange dans la rue. Eh bien, à peine ai-je mis le gâteau à ma bouche qu'un couple est venu vers moi, avec un sourire accueillant, hein, sympathique. Et je ne me suis pas gêné, hein. Tout en parlant, j'ai mangé mon gâteau. Voilà. Et puis, quand je pense à mes rencontres, il y a tant de visages de femmes, lumineux, émouvants, offrant leurs dons de parole et de sourire qui consolent de tout. Un soir de printemps, rue de l'Abbé de l'Épée, je marchais sur un trottoir et sur l'autre trottoir apparaît une femme rayonnante comme une déesse, un port noble, un visage plein de grâce et la chevelure dorée par la lumière du couchant, parce que rue de l'Épée est dans l'axe du soleil couchant. Elle donc marchait en ma direction, mais sur l'autre trottoir. Et j'ai pensé à la passante de Baudelaire. Mais tout d'un coup, elle a traversé la rue pour venir vers moi. Et en toute simplicité, elle m'a dit « Une belle rencontre de ma vie. Merci d'être. » Et puis elle est partie. Merci d'être. C'est bien ce que je veux dire aussi à tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie.
Ces rencontres magnifiques illustrent bien le fait que vous dites que vous êtes toujours en résonance avec les autres êtres. Cela me rappelle votre phrase « L'esprit résonne au sens de la raison et l'âme résonne selon la résonance ». Comme dans les rencontres, la méditation se fait donc avec le corps, l'esprit et l'âme.
Oui, le corps et l'esprit, c'est évident. Mais l'âme à sa part indispensable. L'âme de chaque être, c'est la marque de son unicité. Alors que l'esprit a un caractère général qui nous met avec l'univers entier. Donc, si l'esprit, par son travail de raisonnement, nous permet d'entrer en communication avec les éléments concernés, l'âme, elle, raisonnant d'instinct avec l'âme d'un univers vivant, nous permet d'atteindre l'état suprême de la communion et non pas de la communication. C'est pourquoi, là où l'âme joue un rôle dominant, comme dans un véritable amour ou dans les plus hautes créations artistiques, l'humain rejoint le divin. De même, quand on médite avec son âme, on est en l'ouvert.
Qu'est-ce que c'est l'ouvert ?
L'ouvert, c'est cet espace de l'infini qui n'est pas entravé par la hantise de la mort, animé qu'il est justement par un souffle pérenne. La notion de l'ouvert vient de Hölderlin et Rilke l'a repris. Rilke nous invite à ne pas nous accrocher à un seul versant de la vie et à nous situer au cœur de ce qu'il appelle le double royaume de la vie et de la mort. C'est alors que, quand on est au cœur de ce double royaume, c'est alors que nous participons au devenir du courant éternel qui transcende le temps.
L'ouvert vous attire tout le temps dans tous les domaines. Ne jamais occuper une position de fermeture, toujours ouvrir.
Oui.
Travailler toujours l'ouvert.
Oui.
On sent ça chez vous.
Oui, parce que la grande loi de la vie, finalement, c'est l'ouvert. Hein? Il y a une promesse initiale qui continue son aventure, et cette aventure est toujours en devenir. Hein? Donc l'ouvert, ça veut dire nous plaçons notre devenir personnel dans le devenir de l'univers vivant. Hein? Ça, c'est... Peut-être par la suite, nous aurons l'occasion d'évoquer le problème de la vie et de la mort. On peut peut-être préciser davantage cet aspect de la chose, oui.
Et François Cheng, sur quoi méditez-vous ?
Certaines personnes méditent pour trouver l'harmonie et la sérénité. Moi, je suis quelqu'un de tourmenté et je cherche plutôt à atteindre une sorte de rédemption. Je dis bien rédemption. La méditation peut prendre aussi une tournure plus générale. Quand on médite vraiment, on est acculé à affronter les problèmes essentiels de notre existence. Pour moi, depuis toujours, il y a deux principaux mystères auxquels nous avons à faire face, à savoir la beauté d'une part et le mal d'autre part. Ces deux mystères, pour moi, se conjuguent pour m'obliger à interroger un troisième mystère, la mort, justement.
Avant de réfléchir à ces mystères, François Cheng, puisque nous avons parlé de la communion des âmes, est-ce que vous voulez bien nous lire votre poème consacré au chant des âmes ?
Lorsque l'âme se fait entendre, cette voix murmurante, ponctuante, qui est source de tout chant, basse continue, ne connaissant ni borne ni arrêt, le temps est aboli et l'espace vaincu. Mais l'âme ne se fait entendre qu'en résonance avec une âme autre, lèvre à lèvre, cœur à cœur, deux voix mêlées, reliantes, ruisselantes, joignant les feuilles jonchant le sol, aux nuages, nimbant les cimes. Oui, lorsque l'âme parle à l'âme, sauvant les corps de la séparation, de la dégradation, l'espace est aboli et le temps vaincu. Lorsque enfin les âmes se font chant, par-dessus l'abîme des jours, l'étincelle qui en jaillit rallume soudain la flamme immémoriale. Du fond du désir originel émerge le souffle rythmique, strate sur strate, bord à bord, le voilà recommençant l'éternité instant. Les marées printanières, toute frayeur, toute douleur ravalée, renouvellent le séjour des êtres en épousailles. Les âmes errantes réentendent leur voix, ponctuante, murmurante. Les âmes aimantes refont le chemin enfoui de leurs souvenances. Car rien de ce qui avait ému n'était perdu. Ni le vieux mur qu'éblouit un coup de soleil, ni les chants d'un soir éclaboussés de fleurs sauvages. Tout se révèle don, tout se transmue en offrande lorsque, enfin, les âmes se font chant.
C'était À voix nue. Toute cette semaine, François Siri rencontre François Scheng. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Laurent César et Stéphane Poitevin, réalisation Anne Sécheret, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de François Siri avec François Scheng.